France Inter.
Et voici le 13-14 de Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. La chute du roi dollar, la monnaie américaine plonge à son tour après la volte-face de Donald Trump. Explication dans un instant. Quand la Chine, elle, surenchérit ce matin, 125% de droits de douane désormais pour les produits américains. Nous serons en direct de Pékin. Les retraités canadiens installés aux États-Unis, eux, prévoient leur déménagement.
Non, on va juste arrêter de venir ici. Avec l'argent que je dépense ici en 6 semaines, je peux largement aller en Europe. Les Américains vont plus y perdre que nous.
Reportage à suivre. Nous parlerons aussi de la bourde de McDonald's. Le nom de son dernier burger vendu en France signifie « gros cul » en alsacien, vous avez bien entendu. À suivre encore, le commanditaire présumé de l'enlèvement de David Balance était en janvier dernier à Vierzon, ce commanditaire présumé interpellé. Et puis cette avancée pour la santé de nos enfants. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Et pour leur exposition aux substances chimiques nocives.
Oui, les jouets contenant des PFAS et des perturbateurs endocriniens seront bientôt interdits en Europe. Accord conclu hier soir à Bruxelles.
A tout de suite pour vos précisions. Nous suivons aussi en direct le choc sur la terre battue de Monte Carlo entre le prodige du tennis français et celui du tennis espagnol. Arthur Fils face à Alcaraz. À partir de 13h30, elle raconte sa vie avec des cheveux crépus. L'écrivaine Esther Sarabul est notre invitée. Elle publie « Histoire sentimentale de mes cheveux ». Des cheveux qui sont pour de nombreux Français, noirs ou métis, objet de moquerie voire de discrimination. 01 45 24 7000 si vous vous reconnaissez. 13h50, c'est la France. Charnay les Mâcons, nouvelle place forte du basket féminin français. 8000 habitants seulement en Bourgogne. C'est Jean-Baptiste René du journal L'Équipe qui raconte. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. Le comédien Nicolas Briançon, Mozart et Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Alors que les appels au boycott des marques américaines se multiplient en France et trouvent un écho dans l'opinion, voilà une initiative dont le groupe McDonald's, qui symbolise l'Amérique, se serait bien passé. McDo a lancé fin mars son dernier burger, imposant plus de 1000 calories avec deux steaks, et l'a donc baptisé Big Arch, Grande Arche en anglais. Problème, en alsacien et en allemand, cela signifie tout autre chose à un gros postérieur, pour le dire poliment. À Brumath, les clients rencontrés par Élise Ulata le prennent avec le sourire.
Devant le restaurant McDonald's de Brumath, impossible de louper la grande publicité pour le Big Arch.
Ça vous inspire quoi ?
Le gros cul.
Tu manges trop de burgers, tu as un gros cul.
Gros cul, hein. On va au McDo pour ça. D'ailleurs, on va tester, on vient tester.
Le nouveau burger là de McDo, il y a des pubs partout, il s'appelle le Big Arch. Ça vous inspire quoi, vous ?
Une grande arche, comme peut-être la Défense, je sais pas.
Vous parlez pas alsacien ?
Non.
Et oui, le service marketing de McDonald's ne l'avait sans doute pas prévu, mais en Alsace, le nom de leur nouveau burger coupe plutôt l'appétit.
Non mais c'est moche.
C'est moche, non, c'est marrant.
Ça correspond bien à ce qu'on bouffe.
Ça vous donne envie de le commander ?
Pas du tout.
Non.
À nos voisins non plus, ça ne leur a pas plu, parce que Arch, c'est un mot alsacien, mais il existe aussi en allemand. De l'autre côté du Rhin, ce burger s'appelle sobrement le M.
Reportage ici Alsace. Son nom n'est peut-être pas des plus attractifs à vos oreilles, mais on vous assure qu'il est vraiment très bon. Voilà la réaction amusée de McDonald's. Ça, c'est pour le clin d'œil. Maintenant, plus sérieusement, tous les grands groupes, comme McDonald's d'ailleurs, ont les yeux rivés en ce moment sur les cours des monnaies. Le niveau de l'euro, celui du dollar, qui détermine le coût de ce que l'on exporte et de ce que l'on importe. Et les surtaxes, décidées par Donald Trump, plombent sérieusement le billet vert. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour, bonjour à tous.
Le dollar a plongé à son plus bas niveau depuis 3 ans face à l'euro.
Oui, chute de quasiment 2% encore ce matin à 1,14 $ pour 1 euro. Pourquoi cette baisse ? Eh bien parce que les épargnants, les investisseurs du monde entier sont en train de troquer leurs placements en monnaie américaine pour des placements en euros et cela dans des proportions anormales. Il se passe quelque chose d'inédit, me disait tout à l'heure un analyste financier. D'ordinaire, le dollar est la monnaie refuge, sauf que depuis quelques semaines et au-delà même de la question des droits de douane, il y a cette inquiétude qui plane, celle d'une dévaluation unilatérale du dollar. Ce pourrait être une arme de plus dans la guerre commerciale lancée par Donald Trump pour gagner en compétitivité. Ce serait une véritable bombe financière, même si on n'en est pas encore là. Alors sur le papier, papier, un euro fort, c'est un avantage. Hein. L'Union européenne gagne en pouvoir d'achat, mais c'est aussi un vrai coup dur pour nos exportations plus chères. Si le dollar continuait à baisser dans les prochains jours, cela commencerait à poser de sérieux problèmes.
Et cela a des conséquences aussi pour nos finances. On va en reparler dans un instant avec vous, Claire. D'abord, allons voir des producteurs français qui sont directement concernés. Plusieurs d'entre eux sont réunis en ce moment à la Foire internationale au fromage et au vin de Coulommiers. C'est dans le département de Seine-et-Marne, foire inaugurée ce matin par François Bayrou. Bonjour Julien Nenni.
Bonjour.
Vous suivez cette visite pour Inter. Qu'a dit le Premier ministre aux agriculteurs ?
Il faut se serrer les coudes en européen. Voilà en somme ce que le Premier ministre est venu dire ce matin aux producteurs de fromage. Accueil chaleureux et en chanson, hein, vous l'entendez, à l'arrivée de François Bayrou par la confrérie du Brie de Coulommiers. En costume traditionnel, Maëva, par exemple, est raffineuse de Brie en Seine-et-Marne. Elle a croisé le Premier ministre ce matin et comme les autres, elle craint cette montée des tensions commerciales avec Donald Trump.
Faut pas aller au clash, faut pas faire du donnant-donnant, ça sert à rien. On a vu ce que ça a donné avec la Chine et c'est pas bon. Je pense que le mieux c'est de parler, de parlementer et essayer de faire comprendre aux autres que... on a du bon nous aussi et qu'on va pas voler les parts de marché aux Américains.
Entre deux morceaux de fromage, François Bayrou tente de rassurer ses producteurs.
On est tous logés à la même enseigne, on est tous soumis à la même inquiétude. Tous les producteurs et toutes les productions, parce que ça touche toute notre Europe. Et donc il n'y a qu'une orientation, il faut être ensemble, il faut se serrer les coudes pour décider des politiques suffisamment sérieuses pour contrebalancer.
On vit un moment terrible. La seule réponse est européenne, ajoute le Premier ministre, qui est en train d'achever sa visite ici. L'an passé, la France a exporté plus de 220 millions d'euros de fromage vers les États-Unis, même avec des droits de douane ramenés à 10%. C'est évidemment toute la filière qui risque de souffrir.
Julien Nenni à Coulommiers avec les moyens techniques de Nicolas Mathias. Claire Chaudière, on vous retrouve. Mm-hmm. François Bayrou a promis de tenir les déficits, mais dans le même temps, on voit que la conjoncture économique se dégrade. Est-ce que tout cela va être possible sans augmenter les impôts? C'est un sujet qui monte en ce moment au sein du gouvernement.
Et cela alors que l'agence de notation Moody's doit actualiser ce soir la note de la dette française après nous avoir dégradé il y a 3 mois. Les propos d'Éric Lombard, le ministre de l'économie, la semaine dernière. Si la situation devait se dégrader encore, on ne pourrait pas demander d'efforts supplémentaires sur la dépense publique. Comme ceux de François Bayrou, la situation actuelle pourrait tout changer. Ces deux interventions ont effectivement semé le trouble. Certains y voyant la porte ouverte à une moindre ambition sur la réduction du déficit, pas question, a vite rappelé la ministre du budget, ou encore, vous le disiez, de possibles nouvelles mesures fiscales. Bercy, que nous avons joint ce matin, redit que le projet n'existe pas. Quoi qu'il en soit, ces derniers jours, ce n'est plus la dette française, hein, Jérôme, qui inquiète, mais la dette américaine, ce qui laisse présager peut-être un peu de répit.
Merci Claire Chaudière pour ces explications, alors que la Commission européenne fait savoir à l'instant qu'il y aura lundi à Washington une réunion entre d'un côté l'Union européenne et de l'autre l'administration Trump. La France et l'Europe qui pour l'instant regardent le duel Chine-États-Unis en espérant ne pas prendre une balle perdue. L'an dernier, les exportations chinoises vers les États-Unis ont représenté 16% de leurs exportations totales et elles sont désormais surtaxées à 145%. C'est-à-dire que ces produits chinois vont coûter plus de 2 fois plus aux consommateurs américains. Bonjour Sébastien Berriot.
Oui, bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Pékin. Sébastien, la Chine annonce ce matin qu'elle relève à 125% ses droits de douane sur les produits américains. Mais ce sera, dit-elle, la dernière fois.
Oui, c'est ça. Désormais, la Chine va ignorer toute nouvelle hausse de droits de douane que pourrait décider Donald Trump. Le régime communiste qualifie la campagne américaine de surtaxe de farce et explique pourquoi il n'y aura plus maintenant de surenchère de sa part. Avec 125% de droits de douane, dit Pékin, les produits américains exportés vers la Chine n'ont déjà plus aucune viabilité commerciale. C'est la première fois que les Chinois évoquent aussi clairement l'hypothèse d'un arrêt presque total du commerce entre les deux puissances. Et Pékin s'y prépare déjà de manière active en essayant de trouver de nouveaux fournisseurs, le Brésil notamment, pour remplacer le soja américain ou encore le Japon et la Corée pour acheter des composants pour les semi-conducteurs qui jusqu'ici venaient surtout des États-Unis.
Il faut chercher aussi d'autres débouchés, Sébastien, pour les Chinois. Par exemple, l'Europe, ça tombe bien, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez qui s'entend très bien avec la Chine est chez vous en ce moment.
Oui, Pedro Sanchez, en effet, fait partie des dirigeants européens considérés comme les plus proches de la Chine. Et Xi Jinping profite donc de cette proximité pour demander à Madrid et donc aux Européens de faire cause commune avec la Chine, résister ensemble, dit le président chinois, face à la coercition des États-Unis. Tentative donc du régime communiste pour trouver un nouveau partenaire capable de compenser la perte de l'immense marché américain. Les Européens ne sont pas forcément contre, mais rien n'est fait car les sujets qui fâchent sont nombreux, à commencer par le déficit commercial sino-européen. Pedro Sanchez l'a rappelé tout à l'heure, déficit qui est largement au bénéfice de la Chine et c'est un obstacle majeur pour les 27 avant tout rapprochement avec Pékin.
Merci Sébastien Berriot en direct de Pékin et l'expression ce matin du Premier ministre François Bayrou sur ce rapprochement éventuel. Remplacer les États-Unis par la Chine pour le commerce est une idée terriblement dangereuse, dit-il. Fin de citation. Autre pays qui cherche à se rapprocher de l'Union européenne en ce moment, le Canada, dont Donald Trump avait dit qu'il en ferait bien le 51e État américain en l'annexant. D'autant plus douloureux que les liens entre les deux pays sont très puissants. Ainsi, chaque hiver, des dizaines de milliers de retraités canadiens fuient le froid de leur pays pour passer des semaines, voire des mois, sur les plages américaines. On les appelle les snowbirds, les oiseaux de l'hiver. Camille Magnard est allée à leur rencontre sur l'île de Hilton Head, c'est en Caroline du Sud.
Promenade sur la plage pour Vanda, son mari et leur chien, des habitués de Hilton Head. Ils viennent une semaine par hiver depuis Toronto et depuis 40 ans. Mais cette année, ils ont bien failli rester au Canada.
On y a réfléchi à deux fois. On a réservé en septembre. Mais si on avait pu attendre décembre, je vous assure qu'on ne serait pas venu.
Tout aussi catégorique, Yana vient chaque hiver d'Ottawa. Elle ne digère pas l'obligation désormais faite aux Canadiens qui restent plus de 30 jours aux États-Unis de s'enregistrer auprès des services d'immigration.
Oui, je le vis comme une insulte, vraiment. Parce que jusque-là, on passait la frontière comme on voulait. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire ?
Beaucoup de ses proches ont juré de ne plus revenir aux États-Unis tant que Donald Trump sera au pouvoir. Mais elle reviendra parce que son frère vit tout près en Caroline du Sud. Quant à Terry, qui vient aussi de l'Ontario, il a déjà fait son choix.
Non, on va juste arrêter de venir ici. Avec l'argent que je dépense ici en 6 semaines, je peux largement aller en Europe. Les Américains vont plus s'y perdre que nous.
Terry, Yana, Vanda l'assurent tous. Leurs voisins américains ici restent très accueillants pour le moment et s'excusent la plupart du temps pour la manière dont leur président traite le Canada.
Reportage Camille Magnard. L'ONU monte le son sur les bombardements israéliens sur Gaza. Les actions d'Israël menacent la capacité future des Palestiniens à vivre à Gaza, dit-elle, et son haut commissariat aux droits de l'homme, lui, a étudié les frappes israéliennes qui se sont déroulées sur l'enclave entre le 18 mars et le 9 avril. Il constate qu'un large pourcentage des victimes sont des enfants et des femmes. Fin de citation. La visite du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, à Alger dimanche dernier, avait donné de l'espoir aux proches de Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien condamné à 5 camp de prison ferme, notamment pour atteinte à l'intégrité du territoire. Mais 5 jours plus tard, le dossier ne semble guère avoir avancé. Pourtant, ce matin, dans les allées du Festival du Livre à Paris, Emmanuel Macron s'est dit confiant quant à la libération de l'écrivain.
Nous travaillons pour que les décisions soient prises dans la bonne direction et nous savons combien, d'abord, ici redire combien nous pensons à lui et à sa famille, combien il est à la fois un auteur important et un grand écrivain pour nous tous, mais aussi un homme qui doit se soigner. Et notre souhait le plus ardent, et ce sur quoi nous travaillons, c'est que les autorités algériennes puissent prendre la décision qui lui permettra de recouvrer sa pleine liberté, de se soigner, de pouvoir réécrire. Je suis confiant parce que je sais qu'il y a une attention particulière et simplement, voilà, j'attends les résultats.
Le président de la République au micro d'Ilana Mor-Youssef.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Qui a ordonné l'enlèvement de David Balan et de sa compagne au mois de janvier dernier à Vierzon, ce génie de la crypto-monnaie, cofondateur de la société Ledger, avait été retrouvé le lendemain ligoté à Châteauroux avec un doigt coupé. Jusqu'ici, les enquêteurs avaient interpellé 7 personnes considérées comme des hommes de main. Bonjour Sarah Guibaudot.
Bonjour.
Il pense cette fois avoir mis la main sur le commanditaire présumé.
Oui, c'est un jeune homme de 26 ans qui a été mis en examen hier à Paris avec sa compagne. Alors le suspect conteste être le commanditaire, nous a dit son avocat. Il a en tout cas été extrait de la maison d'arrêt d'Angers où il était déjà en détention provisoire et il est donc soupçonné d'avoir depuis depuis sa cellule, organisé l'enlèvement de l'entrepreneur de Vierzon. Il aurait fait appel à des exécutants qui avaient enlevé David Balan et sa compagne à leur domicile. La procureure de Paris avait expliqué en janvier que le commando semblait en partie constitué de gens qui ne se connaissaient pas, avec des recrutements opérés via des plateformes comme Telegram ou Signal. Les ravisseurs exigeaient une rançon en crypto-monnaie. Le cofondateur de Ledger avait été retrouvé à Châteauroux le lendemain, puis sa compagne le surlendemain dans une voiture garée en Essonne. Les deux nouveaux suspects ont été mis en examen notamment pour enlèvement, séquestration avec torture ou acte de barbarie en bande organisée, ce qui fait encourir la réclusion criminelle à perpétuité et 1 million d'euros d'amende.
Précision signée Sarah Guibaudot. Les Européens ont donc trouvé un accord la nuit dernière au sujet des jouets des enfants et de leur composition. Les PFAS et certains bisphénols seront bientôt interdits. Alors quand je dis bientôt, il faut d'abord que le texte soit définitivement adopté et ensuite il faudra encore attendre 4 ans et demi le temps pour les industriels de s'adapter. Sandy Dauphin, on vous retrouve. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais les défenseurs de l'environnement et de la santé sont plutôt satisfaits. Quels sont les jouets concernés, Sandy ?
Bah écoutez, ça peut être les poupées, les anneaux de dentition, des seaux et des pelles de plage. Les PFAS et les perturbateurs endocriniens comme le bisphénol A sont interdits dans tous les jouets. Les parfums allergènes dans les objets que des moins de 3 ans peuvent mettre à la bouche aussi. Ces nouvelles règles européennes sur la sécurité des jouets étaient très attendues par Sylvie Platel de l'association WECF, spécialisée dans la santé environnementale.
Les enfants sont beaucoup plus vulnérables aux expositions aux produits chimiques. C'est un risque de perturbation du système cérébral, d'infertilité, de puberté précoce et de tout un tas d'autres risques sanitaires majeurs. Et là, on est très très content du résultat de ces négociations.
Mais 80% des jouets sont importés de Chine. Respecteront-ils la réglementation européenne, comme ils sont censés le faire ? L'eurodéputé Pascal Canfin a poussé pour cette interdiction des PFAS dans les jouets. Il se veut rassurant.
Les producteurs européens ont raison de dire qu'il faut renforcer les contrôles aux frontières. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes engagés en parallèle dans une réforme des douanes européennes, pour faire en sorte que ce qui rentre en Europe soit davantage contrôlé en matière environnementale et sanitaire que ça n'est le cas aujourd'hui.
Et pour faciliter les contrôles et assurer une meilleure traçabilité, les jouets devront avoir un passeport numérique, document qui comportera les informations sur leur conformité.
Vous nous parlez des PFAS, Sandy. Plusieurs études scientifiques ont fait un lien entre l'exposition à ces produits et l'infertilité. Eh bien, un centre d'excellence dédié uniquement aux problèmes de santé féminin et à la fertilité vient de voir le jour à l'hôpital Foch de Suresnes, près de Paris. Déjà connu pour ses 3 greffes de l'utérus, l'établissement vient de se doter d'un service de pointe. Héloïse Roger s'est rendue sur place.
Ne plus laisser la santé des femmes en marge de la médecine. C'est la volonté de ce nouvel institut, mais aussi celle du porteur de ce projet, le chef de service de gynécologie obstétrique, Jean-Marc Ayoubi.
Au lieu que la patiente cherche en permanence les différents spécialistes à voir, ben nous on ramène et on amène les différents spécialistes au service de la patiente au sein d'un lieu unique qui est l'Institut de la Santé.
Dans ce nouveau lieu, une centaine de soignants sont au service des femmes, médecins, mais aussi sages-femmes, échographistes, diététiciens, psychologues.
L'idée, c'est de faire travailler ces gens ensemble. On confronte nos points de vue et on se concerte.
Un regroupement pour faciliter et améliorer le parcours de soins. Endométriose, fausse couche, suivi de ménopause, mais aussi infertilité avec le parcours One Day Fertility, expliqué par Marine Poulain, biologiste de la reproduction.
Tous les bilans d'exploration de la patiente qui doivent se faire à un certain moment du cycle menstruel. Et donc si elle doit faire ses examens dans divers lieux, souvent ça s'étale sur plusieurs mois, alors que là on leur propose sur une même journée.
L'objectif de cet institut de pointe, c'est de prendre en charge chaque année 2000 femmes touchées par des problèmes de fertilité, contre 850 aujourd'hui. Et toute pathologie confondue, jusqu'à 15 000 patientes pourront être reçues dans ce nouveau pôle.
Héloïse Roger, elle s'est battue toute sa vie pour les droits des femmes. La journaliste et écrivaine Cathy Bernheim est morte cette semaine à l'âge de 78 ans. Ses obsèques se tiennent cet après-midi à Paris, cimetière Montmartre. Elle avait cofondé le MLF, le mouvement de libération des femmes, et tenté, c'était en août 1970, de déposer sous l'Arc de Triomphe une gerbe pour la femme du soldat inconnu, geste qui avait eu à l'époque un très fort retentissement. Elle n'était pourtant pas la personnalité féministe la plus en vue, raconte son amie Martine Storti, militante elle aussi du MLF. Elle est au téléphone de Mathieu Braun.
Cathy était une femme très drôle,
pleine d'humour et d'inventivité. Elle avait beaucoup d'imagination, elle était très créatrice. C'est elle qui faisait partie des femmes qui ont eu cette idée absolument qui a stupéfait tout le monde et qui en même temps était très drôle, qui était de porter une gerbe en août 1970 devant la tombe du soldat inconnu avec un bandeau disant « il y a plus inconnu que le soldat, sa femme ». Elle a été l'une des co-rédactrices de ce qui s'appelait l'hymne du MLF et qui est devenu aujourd'hui l'hymne des femmes, qui est d'ailleurs une parmi les multiples chansons écrites à ce moment-là, celle qui reste, celle que les jeunes connaissent, c'est celle-là. Les femmes, nous sommes
L'hymne des femmes 1971, co-composé et co-écrit par Cathy Bernheim, qui a donc disparu cette semaine, chant régulièrement entonné lors des manifestations féministes. Le tennis en ce printemps, c'est sur la terre battue de Monte-Carlo. Nous en sommes au stade des quarts de finale. Dans ce tournoi, l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina s'est qualifié pour les demi-finales ce matin et il affrontera soit l'Espagnol Alcaraz, soit le Français Fils. Bonjour Fabrice Abgral.
Bonjour.
Vous assistez à ce match qui est en cours et qui met aux prises deux petits génies du tennis.
Oui, c'est vrai, c'est la première fois qu'ils se rencontrent, Arthur Fils et Carlos Alcaraz, et la première fois qu'ils sont tous les deux en quart de finale à Monte-Carlo. Le match a débuté il y a 37 minutes très précisément et pour l'instant 4 jeux à 3 en faveur d'Arthur Fils. Il va servir dans quelques instants pour confirmer le break pour mener 5 jeux à 3. Il a même mené 3-0 Arthur Fils dans ce premier set. Il a pris deux fois d'entrée le service de Carlos Alcaraz. Alcaraz surpris par l'agressivité, par la puissance de frappe de Arthur Fils, qui a mis tout de suite beaucoup de pression, qui a mis aussi beaucoup d'intensité dans chaque frappe de balle pour gêner Carlos Alcaraz. Mais progressivement l'Espagnol est revenu dans la partie, il retrouve un petit peu plus de longueur de balle maintenant Carlos Alcaraz, mais il est toujours là Arthur Fils. En effet, Arthur Fils et Carlos Alcaraz font partie de la même génération et ils n'ont qu'un an d'écart. Arthur Fils a 20 ans, Carlos Alcaraz lui en a 21, mais côté palmarès évidemment Arthur Fils a du mal à soutenir la comparaison et il n'a remporté que 3 tournois, Carlos Alcaraz 17, donc 4 grands chelems. C'est un véritable test évidemment pour Arthur Fils aujourd'hui. S'il s'impose, c'est un exploit. S'il s'incline évidemment, eh bien la logique sera respectée, mais croyez-moi, sur ce qu'il montre actuellement, il pourrait très très bien réaliser l'exploit.
Merci Fabrice Abgral en direct de Monte Carlo. Et puis pour tous ceux qui voulaient aller à la pêche à pied cet après-midi sur le littoral atlantique, la préfecture de Loire-Atlantique lève une partie de l'interdiction de pêche et de vente de coquillages. L'autorisation désormais concerne le littoral du Pouliguen, Loire-Atlantique, jusqu'à la Vendée, 13h22, le temps.
La météo, avec Préfond, l'expertise retraite, épargne et prévoyance de la fonction publique depuis plus de 60 ans. Pour une retraite solide, même par temps incertain. Préfond.fr.
Le temps pour la pêche à pied et le reste. Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Soleil et grande douceur cet après-midi.
Oui, beaucoup de soleil sur la quasi-totalité du pays. Alors on trouve quand même encore quelques grisailles du Roussillon aux Bouches-du-Rhône. Le vent d'autant souffle de l'Aude au midi toulousain jusqu'à 50 à 70 km à l'heure. Sur le sud-ouest, un petit voile nuageux va s'inviter dans l'après-midi sans gâcher l'impression de beau temps. C'est vraiment en toute fin de journée que les nuages vont s'épaissir sur l'ouest des Pyrénées avec quelques gouttes. Ce risque d'ondée s'étendra au sud-ouest ce soir et cette nuit. Côté thermomètre, ça monte, alors souvent 20 à 25 degrés cet après-midi, un peu moins près de la Manche et de la Méditerranée, 16 à 21 degrés, mais jusqu'à 23 à 27 sur le sud-ouest, les 27 à Biarritz. Et demain, changement
alors
de temps.
Alors le week-end. Ouais.
Oui, changement de temps demain. Retour des averses sur l'ouest essentiellement, des orages parfois marqués sur le sud-ouest en fin de journée, et puis dimanche, le risque d'averses sera plus marqué sur le sud et l'est du pays. En revanche, sur les régions du nord-ouest, on retrouvera des éclaircies, et la semaine prochaine s'annonce... changeante, on va dire.
Changeante, pour le dire...
gentiment.
Voilà, gentiment, c'est le mot que je cherchais. Élodie Calac, Météo France.
Stack désigne en anglais les piliers de la mer, détachés de la côte. D'Étretat au Cap Horn, ces sentinelles de roche se dressent par milliers devant les falaises côtières.
Sylvain Tesson.
Qui êtes-vous, tour de la haute mer? Tout bouge autour de nous, vous ne reculez pas. Je veux me balancer dans les vagues, grimper ces aiguilles au milieu des oiseaux. Je pars vous escalader, dernier refuge de la beauté.
Les piliers de la mer, le nouveau livre événement de Sylvain Tesson, chez Albin Michel.
Dans le cadre d'un appel à la grève déposé par les syndicats CFDT, CGT, FO, SNJ Sud et UNSA de Radio France contre le projet de holding de l'audiovisuel public, ce programme a été réaménagé. Je vous laisse donc avec un peu de musique et on se retrouve à partir de 13h30 avec notre invité. 13h30 sur France Inter.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Bonjour Estelle Sarah Bull.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, d'être aujourd'hui l'invitée de ce 13-14. Vous êtes écrivaine, romancière. Vous avez, dans une première vie, travaillé dans des cabinets de conseil, dans des musées également, avant de bifurquer, de changer de voie. Et comme vous avez mis un petit peu de temps à vous lancer dans l'écriture, vous avez pris votre temps également pour parler de vos cheveux.
Oui.
Histoire sentimentale de mes cheveux, c'est aux éditions Bayard. Vos cheveux noirs, crépus, frisés, car si votre maman était ch'ti, votre papa, lui, est guadeloupéen et il vous a donc légué cette chevelure. Qui
c'est vrai,
vous...
oh, c'est un mélange hein, quand
un
même, elle m'a légué quelque chose aussi ma maman.
Mais les cheveux, c'est peut-être plutôt votre papa.
Oui.
Ce qui vous ramène, et c'est une phrase qui est assez frappante dans le livre, aux marges capillaires de la société française. J'avoue que cette expression au début m'a fait plutôt rire, plutôt sourire, mm-hmm. et puis au fur et à mesure de la lecture du livre, beaucoup moins. 01 45 24 7000 pour les auditeurs qui veulent vous interroger, vous passez également via l'application France Inter. Il y a sans doute beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui se reconnaissent dans ce que vous dites. Et je crois que c'est le cas de Virginie. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Vous
bonjour.
Nous appelez de Nîmes.
Oui, tout à fait.
Allez-y, on vous écoute.
Alors en fait, moi, ma fille a 10 ans et elle est franco-sénégalaise. Elle est magnifique. Elle a en fait un très beau métissage. Elle a la peau toute blanche et elle a les cheveux afro, mais vraiment afro. Blond, crépus et des yeux verts. Mais par contre, c'est très difficile à assumer parce qu'elle a très peu de repères en fait pour s'identifier dans sa beauté. Et voilà, donc du coup, elle a souvent des remarques. Depuis petite, en fait, soit elle fascine, soit elle subit des remarques voilà, un peu désobligeantes sur son physique. Et du coup, c'est difficile pour elle. Elle commence juste à aimer ses cheveux et petit à petit avec le temps, parce que moi aussi, je me bats avec ça tout le temps, quoi.
Donc vous êtes française et votre mari ou votre compagnon sénégalais, c'est ça?
Oui,
et
voilà.
Vous dites, ma fille n'a pas de repère. Ça veut dire quoi, pas de repère? Pas de modèle?
Voilà, pas de modèle de beauté, c'est difficile. Et en fait, comme elle, il n'y en a pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup.
Hier, à ce micro, avec Frédéric Pommier, l'influenceuse Paola Locatelli, parlait de Rihanna. L'exemple de Rihanna, ça peut faire partie des modèles?
Ça n'a rien à voir avec ma fille.
Ah d'accord.
Oui.
Bon, moi, je vois très bien, en tout cas, la description que vous en faites la rend plutôt très attractive et on a envie de voir sa photo. Hein.
Oui, et en fait, justement, même, elle est tellement attractive que les gens ne peuvent pas s'empêcher de lui toucher les cheveux dès qu'ils la voient. C'est systématique, c'est très impoli, mais... Oui.
Est-ce que vous avez trouvé un coiffeur, Virginie?
En fait, c'est moi qui, je pense que je vais avoir un doctorat en cheveux afro à la fin de ma vie, parce que c'est moi qui la coiffe, en fait. Elle supporte pas le coiffeur, on lui fait mal, en fait. Ça fait partie aussi des choses, pourquoi elle n'aime pas ses cheveux, parce que ça lui fait mal, en fait.
Elle a 10 ans, ça fait un petit moment qu'elle va à l'école maintenant, donc elle connaît ses camarades. Est-ce que les choses, petit à petit, pas sont rentrées dans l'ordre, mais enfin, est-ce qu'elle passe inaperçue, si je puis dire, avec le temps?
Pas du tout. Ah elle est vraiment atypique. Il va falloir qu'elle apprenne à assumer sa beauté.
Merci pour ce témoignage, Virginie, et les encouragements d'Estelle Sarabulle pour votre fille. Évidemment, Estelle Sarabulle, vous avez connu ça.
Exactement. Alors là, oui, hein, je me reconnais tout à fait dans tout ce qu'elle est. Mais c'est ça qui est fou, c'est que finalement, à 40 ans d'écart, on retrouve les mêmes problématiques. C'est incroyable. Alors que la société s'est métissée, que maintenant, il y a quand même beaucoup d'accès à de la diversité via les réseaux sociaux. Et pourtant, il y a des stigmates qui restent et qui proviennent d'une très longue histoire et qui sont donc très difficiles à déplacer. Donc évidemment qu'il faut qu'elle aime ses cheveux et que surtout elle n'intègre pas ce stigmate. Et je pense que c'est quand même en bonne voie. Elle va effectivement apprendre à les aimer et faire de cette différence une force.
À l'école, il y a souvent la piscine. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'épreuve du bonnet de bain?
Mais oui, parce que les bonnets de bain ne sont pas du tout adaptés justement à ce type de chevelure opulente, crépue, qui gonfle avec l'eau. Et les bonnets de bain, c'est plutôt des choses toutes petites qui s'accrochent aux cheveux et à la tête. Donc moi, c'était toujours un calvaire. Déjà, ça me faisait mal, parce que chaque fois qu'il fallait le mettre et l'enlever, ça arrachait mes cheveux. Et ensuite, ça ne tenait pas, tout simplement, parce que ce n'est pas fait pour ça. Et du coup, on me punissait parce que j'avais pas de bonnet de bain, mais les bonnets de bain n'étaient pas du tout adaptés, ils craquaient en fait.
Et vous écrivez, il nous est tous arrivé de souhaiter avoir des cheveux différents de ceux que nous avons gagnés à la loterie génétique, donc de changer de cheveux. Vous n'avez jamais eu cette volonté par rapport à la couleur de votre peau, par exemple?
C'est beaucoup plus difficile à changer, c'est un peu ce que je dis. C'est le cheveu est la seule partie du corps qu'on peut modifier à l'infini et qui a priori va repousser indéfiniment, et donc c'est pas trop grave, pas trop de dommages, quoique on peut modifier les cheveux. La peau, c'est un organe quand même extrêmement sensible qu'on ne peut pas toucher comme ça.
Est-ce que vous diriez que c'est plus difficile pour les femmes que pour les hommes?
Oui, parce que forcément, dans la société dans laquelle on est, on demande, les exigences sont beaucoup plus fortes quant à l'aspect des femmes. Donc le cheveu fait partie intégrante, et ça depuis longtemps aussi, même dans les contes de réponse à Cendrillon, la longue chevelure, voilà, c'est les princesses et c'est ce que doit arborer la femme.
Donc vous êtes née dans les années 70, oui. Région parisienne,
oui.
Vous cherchez des modèles à ce moment-là. Virginie nous en parlait, elle disait
oui.
Ma fille n'a pas de modèle.
Ben oui,
est-ce que
sûr.
Vous, vous cherchez des modèles à ce moment-là?
Bien sûr, tout à fait, et j'en trouvais pas non plus, surtout pas dans la télévision et les médias français, c'était absolument invisible. Il n'y avait déjà pas beaucoup d'hommes noirs, mais des femmes noires, alors là il y en avait quasiment pas.
Ben moi j'ai cherché des images de Tina Turner.
Ah, alors
avec
américaine,
ses cheveux, ouais.
Elle n'est pas française.
Mais je n'ai pas trouvé d'image d'elle avec des cheveux
non,
naturels.
Parce qu'elle
avec
avait...
des cheveux
non, non, elle avait des perruques, des tissages. C'était très fort aussi aux États-Unis. Et effectivement, l'autre source de modèles potentiels pour nous, c'était les États-Unis avec les feuilletons américains. Mais là, c'était des cheveux très dénaturés, très défrisés. Donc, il n'y avait pas vraiment de modèle naturel, en tout cas.
Ça veut dire que vous vous retrouvez toute seule avec ça?
Oui.
Ça veut dire que vous pouvez en parler peut-être avec votre père?
Oui, avec mon père, mais
avec des copines?
Alors en fait, mon père en tant qu'homme, je pense qu'il ne mesurait pas ce que ça pouvait être, parce que donc les injonctions sont bien moins fortes pour les garçons. Donc c'était plutôt ma mère qui s'occupait de ça, et bah, un peu comme dans le témoignage de l'auditrice qu'on a entendu, elle faisait ce qu'elle pouvait. En fait, il n'y a que quand j'allais en Guadeloupe que là, c'était un sujet qui se détendait, parce que là-bas, tout le monde s'est coiffé ce genre de cheveux, donc ce n'est plus une question.
Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous avez renoncé? Des endroits auxquels vous avez renoncé
oui,
d'aller?
Les ou coiffeurs. Des...
D'accord.
Déjà. Les coiffeurs, de toute façon, ils me le disaient. Hein. Dès que je mettais un pied chez un coiffeur, je voyais bien au regard et au visage fermé que ça n'allait pas être possible. Sauf si j'allais chez les coiffeurs africains. Donc, il fallait aller à Paris. C'était compliqué. C'est très cher. Il y a une demande phénoménale. Donc, on attend beaucoup. Mais chez moi, dans ma banlieue, il n'y avait pas de moyen de se coiffer. Donc, ça, c'était un endroit où je n'allais pas. Et malheureusement, ça continue encore, même avec mes enfants. Je sais que si je vais... Pourtant, elles ont des cheveux encore plus métissés que les miens. Mais impossible d'aller chez un coiffeur classique.
Ah, classique.
Voilà. C'est-à-dire les grandes chaînes que tout le monde connaît, c'est pas possible encore pour les cheveux crépus.
Parce que les coiffeurs ou les coiffeuses ne
savent
pas faire.
Exactement. Ils sont pas du tout formés. Je crois que ça date de 2023, les premières formations aux cheveux, au coiffage des cheveux crépus. Donc c'est très récent.
Création d'un diplôme spécialisé dans les cheveux bouclés, frisés et crépus. Effectivement.
Voilà, ouais.
C'était il y a 2 ans.
C'est ça.
Par l'Éducation nationale. Quelles sont les phrases que vous avez pu entendre, par exemple, à l'école?
Tu t'es mis les doigts dans la prise? Ça, c'était
ça, c'est
ce qu'on
le classique.
Le classique du matin jusqu'au coucher. Voilà.
Des élèves, des profs?
Pas les profs, non, plutôt les élèves, oui. Ouais.
Et des injonctions peut-être à
ah bah
attacher
après, dans
vos
la
cheveux,
vie professionnelle, oui, tout
ah.
le temps. Là, oui,
tout
c'était.
Le temps.
Oui. C'était vraiment la seule fois où j'ai essayé, je le raconte dans le livre. Hein. Pourtant, je me suis dit que j'étais dans un environnement plutôt accueillant à la diversité, puisque c'était dans le milieu de l'art contemporain. Et même là, j'ai senti qu'il ne fallait pas que je le fasse 2 fois.
Mais c'est fait comment? C'est attache tes cheveux.
On va pas me le dire directement.
C'est peut-être
mais...
tu devrais quand même.
Oui, on va
cheveux.
Me faire des remarques toute la journée. Puis c'est vrai que j'atteignais des postes un peu de direction et plus vous montez, plus l'injonction va être forte.
Est-ce qu'à un moment, quand vous rentrez dans une pièce, il y a une réunion importante, vous dites les gens vont regarder mes cheveux?
Je vous avoue que je n'ai même pas essayé lors de réunions. Là, je les attachais systématiquement.
Donc là, c'est en mode camouflage.
Ouais, camouflage, vraiment, pour ressembler le plus possible à la norme occidentale qui n'a rien à voir avec la nature de mes cheveux.
Moi, j'ai pensé en lisant votre livre, un grand classique de la littérature française, c'est Poil de carotte,
oui.
De Jules Renard,
oui.
Dans lequel le petit poil de carotte, il est évidemment dénommé comme ça parce qu'il a les cheveux roux.
Oui.
Et tous ceux qui ont les cheveux roux ont subi
oui.
des remarques des colibés. Est-ce qu'il y a un rapprochement
possible?
Oui,
on peut, parce que c'est une stigmatisation, donc on peut rapprocher ça. Et c'est justement un ouvrage que j'utilisais, moi, dans les ateliers d'écriture que je faisais avec des CAP coiffures dans un lycée. Je commençais par Poil de carotte. Alors, en fait, le livre est très riche et donc parle aussi de la maltraitance familiale.
Oui, c'est la maltraitance des enfants.
Mais la porte d'entrée, c'est effectivement ça.
Et ça leur parlait quand vous
Oui, ça leur parlait, tout à fait.
Pascalina est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aussi reconnue, je crois, dans le témoignage et dans le livre d'Estelle Sarabulle.
Ah, ben oui. Quand je suis arrivée de mon pays, de la Martinique, je me suis présentée au Crazy Horse et le patron...
Au Crazy Horse.
Au Crédit Horse de Paris, oui, j'ai travaillé 15 ans là.
Vous étiez danseuse?
Oui, j'étais danseuse. Bernardin, Alain Bernardin, le patron, m'a dit, oh non, ma petite, des cheveux comme ça, pas, il faut pas ça. Et si tu veux travailler ici, il faut mettre une perruque. Et j'ai vu à Pec, ça m'allait tellement bien, mieux que mes cheveux. Eh bien, j'ai adopté la perruque jusqu'à maintenant. Ce qui m'a fait aller travailler à Las Vegas et tout, j'ai pas eu de problème parce que j'avais mes cheveux crépus cachés sur la perruque.
Vous portez toujours une perruque aujourd'hui, Pascalina, ou pas?
Jusqu'à maintenant, j'ai honte de mes cheveux parce que on peut aller chez n'importe quel bon coiffeur. Vous vous faites coiffer bien, bien tirer les cheveux. Vous sortez, il fait un peu humide ou il pleut, hop, les cheveux crépus apparaissent. Alors là, après, on a honte, bon, et fatigué. Bon, j'ai adopté la perruque et je me sens bien plus belle, bien mieux qu'avec mes cheveux crépus.
Qu'est-ce que vous diriez à une jeune fille aujourd'hui avec des cheveux comme les vôtres et qui hésiterait ou qui pourrait se sentir mal à l'aise?
Ben, je dirais porte la perruque, tu verras.
Vous diriez ça quand même, ouais.
Ah oui, parce que c'est pas drôle les cheveux crépus, hein. Non, c'est pas drôle.
Merci.
Non.
Merci Pascalina pour votre témoignage. Estelle Sarabulle.
Eh ben voilà, donc je comprends ce qu'elle a pu subir pour en arriver là, mais vous vous rendez compte, toute une vie en cachant la vraie nature de ses cheveux et en intégrant tellement ça qu'elle dit qu'elle en a honte encore aujourd'hui et qu'elle est prête à transmettre cette honte, c'est pas de sa faute, hein, mais aux générations futures. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a quand même un gros problème, parce que c'est tellement beau les cheveux crépus. Et oui, effectivement, c'est des cheveux qui réagissent à l'humidité de l'air, à plein de choses, mais c'est parce que c'est une texture vivante, comme tous les cheveux.
Mais c'est le cheminement d'une vie, finalement, ouais, de les accepter. Moi, c'est ça que j'ai découvert, et que je découvre encore, là, en discutant avec Pascalina. Vous avez un peu plus de 50 ans.
Oui.
Il vous a fallu du temps avant d'écrire ça.
Oui, tout à fait. Mais c'est même venu d'une demande de mon éditrice. Sinon, peut-être que je n'aurais jamais conscientisé ce problème, parce que ça remonte à tellement loin. Mais effectivement, c'est... Bon, après, je pense que le cheveu, c'est quelque chose d'intime et d'universel. Donc, on a tous besoin à un moment de s'accepter tel qu'on est. Ça n'est pas intrinsèquement lié aux cheveux crépus. Mais c'est sûr que dans une société où ce n'est pas la norme, c'est un poids en plus.
Ce n'est pas la norme. Et pourtant, il y a des endroits où on croise beaucoup de gens qui ont les cheveux crépus. Il y a aussi une dimension sociale à ce sujet. Je vous cite, ce sont ces chevelures que l'on voit dans le métro à Paris, notamment à 6h du matin, dans les quartiers périphériques des grandes villes, sur la tête des personnels d'entretien à l'hôpital, à la crèche, dans les aéroports, chez les aides-soignants, sur les contre-marches des camions déboueurs, de temps en temps à la télévision, un peu plus fréquemment sur les réseaux sociaux.
Exactement, c'est une sociologie qu'on peut faire par les cheveux et qui est très nette, en effet.
Ça veut dire que ce sont les gens qui ont les cheveux crépus d'origine antillaise ou africaine qui font les boulots les plus durs.
Ben oui, tout à fait.
Les moins bien payés.
Oui, les moins valorisés. Et donc ça va avec, je pense, parce que qui dit moins valorisé aussi dans leur personne, jusqu'aux cheveux.
Est-ce que vous notez tout de même des changements? Ou pas, vous qui êtes
malheureusement,
évidemment
quand
très attentive.
Voilà, quand il suffit d'entendre vos auditrices pour voir que si changement il est très lent, très progressif et qu'il y a encore une marge extrêmement haute, une marche extrêmement haute à sauter pour franchir ces préjugés. Alors effectivement, les réseaux sociaux amènent quand même un accès à plus de diversité pour les jeunes générations. Mais voilà, ça va être un long combat qui passe par plein d'autres choses en fait, puisque ça rejoint quand même un racisme structurel qui tient à beaucoup de facteurs. Et donc, il faudra travailler sur tous ces facteurs.
Les législateurs sont emparés tout de même de ce sujet, c'est assez récent, 2019, la Californie interdit la discrimination raciale fondée sur les cheveux, c'est le premier État américain à le faire, et en France, il y a eu l'an dernier le vote de cette loi contre la discrimination capillaire au travail.
C'est très important, parce que c'est vraiment, ça reconnaît que c'est une forme de maltraitance, hein, pour toutes les personnes qui sont en contact avec le public, donc comme cette danseuse du Crazy Horse, ou comme ce steward d'une compagnie aérienne qui a été à l'origine de cette loi, ou les hôtesses d'accueil, n'importe où. il y a vraiment cette injonction qui fait que ça va les pousser à se mettre des perruques, ce qui n'est pas bon pour le cuir chevelu, à utiliser des produits chimiques, ce qui est cancérigène. Donc ça fait vraiment partie d'un problème de santé publique.
Après, il faut pouvoir la caractériser, cette discrimination, et recueillir des preuves. Je suppose que c'est pas forcément évident.
Ça va être de plus en plus évident quand même, parce que quand on vous impose quelque chose, ça peut se démontrer.
Histoire sentimentale de mes cheveux, Estelle Sarabulle, c'est aux éditions Bayard. Bayard Récit, merci infiniment.
Merci à vous.
D'être venu dans le 13-14 aujourd'hui sur France Inter. 13h45. Et un dernier crochet par notre cabaret pour le feuilleton. Nous sommes à Renaison depuis lundi, près de Roanne, cabaret L'Élégance, créé il y a 10 ans. Et après des heures de préparation que nous suivons depuis lundi, c'est soir de spectacle. 300 personnes attendues, Victor Vasseur est à l'entrée.
Bienvenue à vous, bienvenue à L'Élégance, où le rêve commence.
Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue.
Alors c'est ça, quel nom ?
Ça-ci.
Frédéric, il y a des habitués.
Oui, complètement. Mais justement, là, à l'instant, je viens d'accompagner des gens à leur table. Ça fait 10 ans, et 10 ans qu'ils viennent chaque année. Ils viennent de montrer dans leur sac, ils avaient toutes les photos. On propose toujours une pochette photo, là, avec le photographe. Et ils m'ont montré toutes les photos. C'est super, parce qu'on voit aussi dans les pochettes bien, les anciens spectacles, Onirique, Time, Élégance, etc. Et ouais, ça fait plaisir.
Mesdames et messieurs, dans quelques instants, vous allez pouvoir entrer dans votre musée d'histoire naturelle de Londres.
Alors le spectacle, c'est simple, on est dans un musée à Londres et la directrice a décidé, par souci d'économie, d'intégrer l'intelligence artificielle dans le musée pour remplacer l'humain. Voilà. Et on se rend compte que c'est peut-être pas une bonne idée.
Jessica, vous avez quel âge ?
21 ans.
Jessica, pourquoi vous êtes dit on va aller voir un cabaret ?
Dans ma belle famille, sa sœur est danseuse. Je me suis dit pourquoi pas commencer l'expérience. Et cette première partie me plaît énormément. J'aime beaucoup l'ambiance et les tableaux sont très beaux. Déjà les costumes sont très très élégants. On voit qu'ils sont travaillés, le thème paillettes et plumes sont totalement d'actualité. Et la joie de vivre sur les danseuses et les chanteurs, ça fait plaisir.
Est-ce que ça reflète l'image que vous aviez en tête avant de venir du cabaret, d'un music hall ?
Non, ça, il casse les codes. On voit qu'il y a des musiques actuelles. Donc on voit qu'ils se réinventent à chaque spectacle. Ça fait plaisir.
Muriel, c'était comment ?
Très beau. Et puis en même temps moderne. Je ne m'attendais vraiment pas à ça pour une revue de spectacle. J'avais plus une représentation du cabaret avec plus des danses de dénudés sur des musiques anciennes. Et là, ça a été tout l'inverse, très moderne avec des super plumes. Et puis avec ce côté aussi artistique, le pole dance. Enfin voilà, quelque chose qui est très moderne et qui est vraiment très chouette. J'ai des paillettes plein les yeux.
Vincent, vous avez 49 ans. Ce cabaret, vous en avez pensé quoi ?
Moi, j'ai adoré, c'est un super bon moment, voilà. C'est des gens passionnés qui font leur métier et en même temps qui font rêver les gens, donc c'est top. C'est je trouve un cabaret moderne, parce que n'en a que le nom, le lieu à peu près, parce que le reste c'est plus comédie musicale, spectacle, musique, danse, acrobatie. Voilà, donc je trouve que ça dépoussière un petit peu le nom cabaret. Et on voit d'ailleurs qu'il y a plein de jeunes qui viennent et ça, je trouve, c'est cool.
David, vous avez 47 ans, quel est le moment que vous avez le plus apprécié lors du spectacle ?
Waouh ! On va dire l'intégralité. Je pourrais même pas vous donner un moment très précis. Et, voilà, quoi. Et on ne regrette pas, comme je disais au monsieur, d'avoir fait 200 km pour venir les voir. Les tableaux, juste fabuleux. Les trois chanteurs qui avaient principale une voix qui équivaut, on va dire, aux stars de notre télévision. Par tous les décors, par le charme des danseuses, la classe des danseuses aussi. Les chanteurs, c'était juste parfait, tout était superbe.
Faut aimer le cabaret.
Ouais, exactement, ouais. Non, surtout c'était pour faire plaisir à ma compagne qui est folle de cabaret.
Ouais, c'était trop beau.
Une semaine dans leur vie, les 5 épisodes sont à retrouver sur franceinter.fr.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le vendredi à 13h49, la France du sport, avec Jean-Baptiste René du journal L'Équipe. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Jérôme.
Jean-Baptiste, aujourd'hui, vous nous parlez d'un miracle permanent qui se produit au milieu des vignes du Mâconnais.
Oui, cela se passe sur le territoire où l'on produit le pouilly fuissé, l'appellation d'origine contrôlée, qui désigne ce blanc de cépage 100% chardonnay. Alors, faut-il y voir un lien avec ce breuvage, à apprécier avec modération? Toujours est-il que Charnay-lès-Mâcon, village de 8000 habitants et plus petit budget de l'élite du basket féminin, bouscule la hiérarchie dans des proportions inattendues et rafraîchissantes. Troisième de la saison régulière qui vient de s'achever, les joueuses au maillot rose, les Pinkies, se sont qualifiées pour les quarts de finale qui commencent la semaine prochaine et elles ont de bonnes chances de titiller les gros bras du championnat comme elles le font depuis plusieurs mois maintenant. Pour le dernier match à domicile de la saison régulière, Charnay a même fait tomber le leader, Bourges, à l'issue des prolongations. Un exploit qui fut une nouvelle fois l'occasion de partager un banc bourguignon avec les 1500 spectateurs de la petite salle de Prissé où se déroulent les matchs à 5 km de là.
Banc bourguignon sont des applaudissements, c'est ça Jean-Baptiste?
C'est ça.
Et en même temps, on boit un verre, voilà, c'est ça. C'est en fait l'esprit village qui règne.
Oui, et ce n'est pas une formule de publicitaire en mal d'inspiration. Les soirs de match, on paie sa place 13 euros, on mange des sandwichs faits maison à 4 euros. Alors je parle des prix parce que, comme le dit le président du club Nicolas Frécon, le passage du sandwich de 3 à 4 euros a été un vrai sujet. Charnay se veut un club accessible, qui fonde d'ailleurs une partie de sa réussite sur la proximité. Même si la mairie est au soutien, les aides des collectivités locales sont relativement limitées. Alors le club trouve ses plus de 200 partenaires privés chez les commerçants ou les vignerons du coin pour les réceptions d'après-match. Avec un budget de 1,8 million d'euros, 4 salariés dont 2 alternants pour le secteur administratif, un salaire moyen pour les joueuses de 3 300 euros, Charnay est un nabo sur le plan financier. Les poids lourds du championnat comme Bourges ou Basketland ont des moyens 3 fois plus importants. Mais Charnay, qui est d'ailleurs un club exclusivement féminin avec ses 263 licenciés, conjugue avec une efficacité rare dévouement des bénévoles et professionnalisme.
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Deux exemples, les très compétentes responsables de la communication et responsables du merchandising sont dans la vraie vie coiffeuse et institutrice.
Ah, carrément.
Alors, quand elle débarque en Bourgogne, les joueuses étrangères notamment sont un peu surprises de voir que le staff médical, lui aussi, est en partie bénévole, mais elle découvre rapidement les vertus du basket terroir. À Charnay, tout le monde habite dans le village, on vit au milieu des gens, raconte la capitaine Coralie Chabrier. Et quand l'équipe part en déplacement, ce sont encore les bénévoles du club qui se proposent pour garder le fils de l'américaine Shakayla Thomas. Alors une fois sur le terrain, les Pinkies se surpassent. Emmenés par un jeune et talentueux entraîneur de 36 ans, Stéphane Leite, qui, ça tombe bien, cherchait un projet humain. Grâce à lui et à toute la fourmilière du club, Charnay continue d'être une heureuse anomalie du sport professionnel.
Et cette histoire est à retrouver en documentaire sur l'équipe Explore à partir de lundi. Merci Jean-Baptiste René. De C'est la France à C'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Jérôme.
C'est le comédien Nicolas Briançon que l'on retrouve à votre micro aujourd'hui.
Aux côtés de Renata Litvinova, il joue en ce moment au Théâtre Héberto à Paris dans Monstre Sacré, un hommage au film de Billy Wilder, Sunset Boulevard. Et c'est d'un air d'opéra qu'il a choisi de parler. Il adore l'opéra. Et c'est par l'opéra qu'il est arrivé au théâtre. Cet air, c'est le premier des deux grands airs de Papageno dans la Flûte enchantée de Mozart. Quand il le découvre. Nicolas Briançon a 14 ans, il habite alors à Bordeaux.
J'écoute pas de musique, je ne vais pas au théâtre, je connais rien du spectacle vivant. Je sais pas très bien ce que je veux faire de ma vie, je suis un peu perdu, je suis très introverti. J'ai un sentiment de non-existence comme on peut l'avoir dans l'adolescence. Et puis un jour, mon père, seul et unique fois de toute mon enfance, peut-être que c'est pour ça que ça m'a autant marqué, me prend par la main et m'emmène au cinéma voir La Flûte enchantée que Bergman avait tournée pour le cinéma. Je connais rien à l'opéra, je ne sais même pas ce que je vais voir. Et je sors de cette projection complètement changé, oui. Et je me dis donc qu'il y a un autre monde qui a l'air beaucoup plus marrant que le vrai monde, que j'ai envie d'aller voir. Et il y a une médiathèque à l'Opéra de Bordeaux, je vais louer des disques d'opéra que j'écoute à 14 ans, ce qui me décale un peu par rapport à mes petits camarades de collège. et même de ma famille, parce que ma mère rentrait dans la chambre en disant « Oh, dis donc, qu'est-ce qu'il a gueulé celui-là » Enfin, je me rappelle. Bon. Et puis, on me repère dans cette médiathèque, le patron de l'opéra, et il me dit ce qui t'intéresserait de faire de la figuration. Et donc, il appelle mes parents, qui se font un peu tirer à l'oreille, mais qui acceptent. Je pars faire de la figuration Grand Théâtre de Bordeaux, là, je découvre...
La scène ?
Plus que la scène, je découvre ma vie, en fait. C'est-à-dire que je me dis « C'est là que je veux vivre ». Et voilà comment tout a commencé.
Drum kann die Frohe lustig sein, denn alle Wiegel sind ja mein.
C'est en 1791 que la flûte enchantée a été donnée pour la première fois, Frédéric.
Et le rôle de Papa Guénot était alors tenu par le librettiste, l'auteur du texte de l'opéra, qui en l'occurrence était beaucoup plus acteur que chanteur. Mais c'est bien pour lui, pour sa voix, que Mozart a composé le rôle, une voix de baryton, ici celle de Walter Berry, avec à la baguette Otto Klemperer.
Klemperer, c'était un grand chef d'orchestre, immense chef d'orchestre, qui dirigeait très lentement les œuvres, mais qui est sans doute le plus grand enregistrement de la flûte enchantée, parce qu'il lui donne à la fois la solennité et la drôlerie tout ensemble. Et Walter Berry met une telle humanité dans ce qu'il chante, dans la voix, dans son interprétation, qui est à la fois d'une simplicité totale et d'une beauté, d'une puissance absolue, c'est merveilleux.
Cet air de Papa Guénot, c'est un air qui vous arrive de fredonner ?
Oh !
Der Vogelfänger bin ich ja stets lustig, heißer Hopsassa.
Il dit quoi précisément dans cet air ?
Il dit « je suis un oiseleur », alors c'est-à-dire quelqu'un qui capture des oiseaux pour les revendre, voilà, ou les élever, ou même les avoir pour le plaisir. Et il raconte ça, et le bonheur de sa vie, et qu'il espère rencontrer la femme de sa vie.
Vous l'avez rencontré ?
Oui.
Ich Vogelfänger bin bekannt bei alt und jung im ganzen Land.
Dans le fond, ce que fait Mozart en écrivant Papa Guénot, justement parce qu'il écrit pour un acteur et pas pour un grand chanteur lyrique ou pour une grande chanteuse lyrique, d'une certaine façon, c'est de la chanson. Et c'est de la chanson populaire.
Dann sperrte ich sie bei mir ein und alle Miesen wären mein.
La flûte enchantée, c'est pas destiné simplement aux amateurs de musique classique ou aux amateurs d'art lyrique. C'est merveilleusement simple. Le personnage de Papa Guénot est un personnage d'ailleurs extrêmement simple. Et il y a quelque chose dans cet air qui est sûrement un des plus connus de l'œuvre, quelque chose de fondamentalement joyeux. Et comme toujours dans la musique de Mozart, même s'il y a tout le temps derrière la conscience de la difficulté, de la vie, du monde, il y a l'espérance d'une joie, il y a l'espérance d'un bonheur, il y a l'espérance d'un plaisir, voilà. J'ai sûrement besoin de ça.
Le premier air de Papa Guénot dans la flûte enchantée de Mozart. C'était donc, Frédéric, le choix de Nicolas Briançon.
Nicolas Briançon, que vous pouvez voir en ce moment au Théâtre Héberto à Paris, dans la pièce Monstre Sacré.
Merci Frédéric Pommier, dans l'équipe du 13-14. En plus de Frédéric cette semaine, à la technique, nous avions Loïc Frapsos et Julien Dumont, à la rédaction en chef, Cécilia Arbona, Estelle Schmitt et Sébastien Sabiron, assisté de Rachid Zourdani. Swad Bellani et Stéphane Rousset, je n'oublie pas notre chargée de programme Claire-Sophie Collet, ainsi que les standardistes d'Inter toute cette semaine. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme Cadet.
Quel est le programme ?
Mon invité au carré dans un instant, le journaliste Hervé Kempf.
A tout de suite.